franceinter.fr.
Ce sont donc des personnes qui souffrent d'un trouble de la personnalité marqué par une très forte instabilité émotionnelle, colère, détresse, sensation de vide intense. On parle de personnalité borderline, avec chez ces personnes des risques de suicide, des pratiques dangereuses et des comportements compulsifs. Ce trouble semble être devenu le mal du siècle au point qu'un service spécialisé dans la prise en charge des personnes borderline a été créé au CHU de Montpellier. C'est le dossier cet après-midi de La Tête au Carré avec mes invités qui sont à l'origine de cette première filière de soins. Et elles répondront d'ailleurs à vos messages, à toutes vos questions, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science, aujourd'hui une étude en génétique des populations qui nous éclaire sur l'histoire des peuples bantous.
Oui Mathieu, le séquençage de plus de 2000 génomes africains nous raconte 5000 ans d'histoire. Des premières migrations bantoues jusqu'à d'autres migrations forcées par l'esclavage. On en discute avec le généticien des populations, Luis Quintana Murci.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la science en grand format avec nos confrères de France 5 pour un documentaire aujourd'hui sur Léonard de Vinci. Stéphanie Texier est aux commandes de l'émission, préparée par Lucie Sarfati.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le trouble borderline dans le dossier dans un instant. Je salue mes invités, la psychiatre Déborah Ducasse et la psychothérapeute Véronique Brand-Harpon. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Déborah Ducasse, les personnes borderline, c'est avant tout un problème de régulation des émotions?
Oui, en effet, on considère qu'il y a trois grandes dimensions à ce trouble. Tout d'abord, un problème de régulation des émotions, donc des personnes qui sont hypersensibles, avec des émotions qui vont être déclenchées par de petites choses, particulièrement intenses, et des difficultés, en effet, à les réguler. Une autre dimension qui est l'impulsivité, c'est la mise en place de comportements ayant une fonction d'éviter la souffrance le plus rapidement possible, sauf que ces comportements vont avoir tendance à éloigner la personne de ce qui serait vraiment important pour elle dans la vie. Et puis une autre dimension qui est vraiment fondamentale dans ce trouble-là, c'est la difficulté dans les relations interpersonnelles, avec à la fois des relations interpersonnelles qui vont être intense et instable, donc marquée par l'instabilité, l'intensité, et aussi une peur intense de l'abandon, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure.
Absolument, on y reviendra en détail avec vous. Véronique Brand-Harpon, vous avez donc créé toutes les deux, hein, au CHU de Montpellier, cette filière de soins dédiée aux personnes borderline. La prise en charge est vraiment urgente là, dans ce domaine?
Alors, il faut savoir quand même que le trouble borderline touche 6% de la population, ce qui est donc pas négligeable.
Oui, c'est beaucoup
même. Tout à fait. Et ce sont des personnes qui se retrouvent souvent en grande souffrance et en forte demande de soins. Et or, à ce jour, il existe quand même peu de centres et de soins spécifiquement dédiés et efficaces dans la prise en charge de ce trouble.
Et vous avez des gens qui viennent de toute la France.
Tout à fait. Des gens qui viennent de toute la France. Et de ce fait, on a pensé qu'il serait intéressant, du coup, pour pouvoir élargir ces soins spécifiques, de proposer un programme, du coup, spécialement dédié. C'est l'objet de notre livre, qui est donc une thérapie pas à pas que les personnes peuvent s'appliquer à domicile.
Et qui est publié chez Odile Jacob. On y reviendra avec vous. On se retrouve dans un instant pour comprendre qui sont les personnes borderline avec les messages des auditeurs. La génétique qui éclaire l'histoire des peuples bantous en Afrique, c'est aujourd'hui à la une de la science.
Ukubala, nye. Mbini, ntatu, ne, ntanu, ntandatu, sixhenxe, sibhozo, lithoba, shumi.
Voilà, c'est la langue Xhosa qui est parlée en Afrique du Sud, qui est une des très nombreuses langues bantoues utilisées aujourd'hui par plus de 310 millions de personnes en Afrique. Et l'histoire de ces populations qui a commencé il y a 5000 ans entre le Cameroun et le Nigeria actuel, quand une poignée d'hommes justement est partie répandre l'agriculture dans toute l'Afrique subsaharienne. Et c'est l'histoire de ces gènes bantous et leur dissémination jusqu'à maintenant qui vous a intéressé. Luis Quintana Murci, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes généticien des populations au CNRS, à l'Institut Pasteur, et vous signez donc cette large étude publiée dans la revue Science. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de suivre ces gènes de personnes bantoues en particulier? Pourquoi cette population-là par rapport à une autre?
Déjà parce que c'est la plupart des Africains subsahariens parlent des langues bantoues. Et aussi un peu plus historiquement dans le laboratoire, surtout la recherche menée par UTN Patin, c'était concentré sur l'autre volet de l'histoire africaine, c'est-à-dire les chasseurs-cueilleurs, comme vous savez, les pygmées et autres. Et on utilisait, entre guillemets, toujours les bantous juste comme population de comparaison. Et on s'est dit, pourquoi on n'étudie pas vraiment les bantous, qu'aujourd'hui, c'est plus de 300 des millions de locuteurs. Et on a essayé de retracer toute son histoire et démographique, et aussi d'adaptation génétique à l'environnement.
Et alors, comment on fait? Comment on retrace une histoire vieille de 5000 ans grâce au génome d'humains actuels?
Donc, ce qu'on a fait, c'était effectivement, on a eu cette collection d'environ 2000 individus de locuteurs de langue bantou dans toute l'Afrique subsaharienne.
Donc, c'est de l'ADN, concrètement?
C'est de l'ADN, des personnes modernes, comme nous, si on était des Européens, qu'on prend notre ADN d'aujourd'hui. Et on étudie la variabilité de son génome, pas le séquençage complet. Pour cela, il faudrait avoir beaucoup plus d'argent de ce qu'on a.
Ouais.
Mais on a étudié donc la diversité génétique de tous ces individus modernes, comme nous, et on peut retracer avec des approches de génétique de population d'où ils viennent, quand ils ont commencé à bouger tout au long de l'Afrique, quand ils ont commencé à se mélanger avec les populations locales qu'ils ont rencontrées, et en quoi la génétique leur a aidé à mieux s'adapter à l'environnement, que ce soit climatique, nutritionnel, voire pathogénique.
Alors vous pouvez tracer des lignes sur une carte qui correspondent au parcours qu'ont fait les populations bantoues dans l'histoire.
Et c'est une des choses qu'on abordait dans cette étude, c'est-à-dire il y avait deux grandes hypothèses pour dire d'où les Bantous se sont originés, c'est-à-dire Cameroun-Nigeria, pour bouger vers l'est, vers le sud, et nos données génétiques, ils ont montré que tout d'abord ils ont traversé la forêt équatoriale, pour après se diviser en une migration qui ira vers l'est de l'Afrique et une autre migration qui ira vers le sud de l'Afrique.
C'est la première fois qu'on trace aussi précisément le déplacement de ces populations ?
C'est la première fois qu'on le trace aussi précisément d'un point de vue génétique et qu'on peut apporter une réponse à plusieurs hypothèses qu'il y avait déjà, basées sur la linguistique surtout et l'archéologie.
Alors vous parliez du métissage, au cours de leur migration, ces peuples bantous en ont rencontré d'autres. Et vous parlez d'un métissage avantageux, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que ces populations ont commencé à se déplacer. Et évidemment, ils ont trouvé des populations locales de chasseurs-cueilleurs, que ce soit pygmées en Afrique de l'Ouest, des Africains de l'Est pastoralistes, et des populations dites avant de Bushmen en Afrique du Sud. Ils se rencontrent, tout au début ils ne se mélangent pas, parce qu'on a pu voir que ce métissage est arrivé que dans les dernières 1000 ans. Alors ce qui s'est passé, c'est que il y a deux façons de s'adapter à l'environnement, d'un point de vue génétique. Soit on s'assoit et on attend qu'un jour arrive une mutation par hasard, comme toujours, et que cette mutation nous aide à mieux résister le paludisme, par exemple. Il y a une autre façon beaucoup plus simple, que c'est simplement, via l'amour, se métisser avec des populations locales, que eux sont adaptés déjà, et que eux, ils ont des allèles qui leur permettent d'être adaptés à l'environnement, et d'une façon très simple, acquérir des mutations qui nous permet d'un, par exemple, comme en Afrique de l'Est, de mieux digérer le lait à l'âge adulte, ou d'acquérir, comme en Afrique de l'Ouest, avec, via le mélange avec les pygmées, d'acquérir de formes de HLA qui nous permet de mieux résister à certaines maladies infectieuses.
Donc l'amour, c'est mieux pour digérer le lait. Chez les Bantous, hein.
Oui. L'amour, c'est mieux toujours.
C'est mieux toujours. Et c'est mieux pour la diversité génétique aussi,
oui.
Apparemment.
Et pour la paix.
Moi, je vais être trouble fait parce qu'après l'amour, on va parler de quelque chose de moins drôle qui est l'esclavage, puisque vous montrez aussi, grâce au génome, les différents ports qui ont servi à la traite des esclaves, et vous mettez même une quantification sur ces ports, une quantité de population qui est partie vers les États-Unis.
Ça, c'est la dernière partie de l'histoire des populations bantoues, partie malheureuse, parce que ce n'est pas des migrations volontaires, ce sont des migrations obligées, forcées. Les données historiques proposaient déjà évidemment différents ports dans l'Afrique de l'Ouest et centrale, à partir duquel il y aurait eu de la traite d'esclaves. Et en comparant les génomes actuels de ces quatre différents ports en Afrique de l'Ouest avec plus de 5000 individus d'Afro-Américains des États-Unis, on a pu retracer cette grande partie du génome des Afro-Américains entre 75 et 80% qui vient de l'Afrique, ou quelle est la contribution de chacun de ces ports au génome actuel des Afro-Américains.
C'est une nouveauté, cette quantification de chaque port pour la traite des esclaves ?
Oui, notamment parce qu'il y avait des parties de l'Afrique, des ports très importants pour la traite d'esclaves, dont on ne disposait pas des données génétiques.
Donc il y a des chiffres, hein. 50% des Afro-Américains viennent du Golfe du Bénin, 30% d'Afrique centrale, du Gabon, de l'Angola, 13% de Sénégambie, c'est le bassin du fleuve Sénégal et Gambien, et 7% de la Côte d'Ivoire. Donc c'est très très précis, effectivement. Donc ça veut dire que là, avec la génétique, Luis Quintana-Merci, vous éclairez d'un jour nouveau l'histoire de ce peuple. C'est important aussi pour pour ces Bantous, non ?
Pour les Bantous d'Afrique, oui. Et pour les descendants des Bantous d'Afrique, après, ils ont été transportés par force aux États-Unis. Aussi, surtout en Amérique du Nord, il y a un grand intérêt pour mieux connaître les origines génétiques. Oui. Qu'en Europe, que peut-être on est moins intéressé parfois.
Est-ce que la génétique permet aussi d'expliquer pourquoi la langue bantoue a eu autant de succès en Afrique subsaharienne ?
Bon, la génétique peut apporter sa petite contribution. Après, pour mieux comprendre l'histoire de tout, il faut contraster les différentes disciplines. La génétique, ce qui montre pour l'instant, c'est qu'il y a eu, bien avant que les bantous soient bantous, une grande expansion, déjà. On l'avait déjà montré il y a quelques années. Ce qui probablement a fait que ces chasseurs-cueilleurs, qu'ils étaient beaucoup, ils ont commencé à acquérir, à adopter une nouvelle technologie, que c'est l'agriculture. Et dans les dernières 3-5 000 ans, cette nouvelle technologie de l'agriculture s'est déplacée et avec les langues mantoues et avec les gènes, parce qu'il y a eu un vrai déplacement de population.
Merci Luis Quintal, merci d'être venu justement nous expliquer un petit peu l'objet de vos travaux avec votre équipe. Travail publié justement très récemment dans la revue Science. Merci beaucoup et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, le tyrannosaure Rex qui était capable de faire exploser les os les plus robustes en un coup de dent, la pression de sa mâchoire dépassant certainement les 3 tonnes, ce qui correspond à 3 fois la puissance de la morsure des crocodiles du Nil, la plus forte du règne animal actuel. Les chercheurs, à l'origine de cette estimation, se sont basés sur la forme des dents, du crâne et de la mâchoire des T-Rex et ont estimé la forme et la puissance de leurs muscles en comparaison avec différents animaux, dont les oiseaux actuels, seuls dinosaures encore disponibles. Ils estiment que cette capacité à mâchonner des os comme des chewing-gums est un élément clé de leur mode d'alimentation de charognard. Pendant les grosses vagues de chaleur, les arbres des villes participent à la pollution à l'ozone, cet effet contre-intuitif quand il s'agit d'améliorer la qualité de l'air en ville en plantant des arbres. S'explique par le fait que les arbres justement émettent naturellement de faibles quantités de composés organiques volatiles, des molécules carbonées qui, par un effet d'interaction avec les polluants, participent à la formation d'ozone. Le problème est qu'en période de forte chaleur, ces émissions de composés sont fortement décuplées. Une étude de cas simulée sur la ville de Berlin montre que les arbres sont responsables de 10 à 20% de formation d'ozone. L'ozone, un gaz nocif pour la santé, responsable de crises d'asthme, de toux et d'essoufflement. Et puis peut-être vers des contraceptifs non hormonaux à base de plantes, un groupe de chimistes américains vient de découvrir une molécule naturelle qui rendrait les spermatozoïdes incapables de percer l'ovule et donc de la féconder. Il s'agit du lupéol qui est présent en très faible quantité dans les oliviers, les manguiers ou même l'acacia et qui bloque la réponse chimique naturelle du sperme en présence de progestérone, une réaction chimique qui lui permet normalement de pénétrer l'ovule. Un nouveau médicament basé sur cette molécule est en réflexion, utilisé préventivement. Il serait accessible aux deux sexes sans distinction, mais il serait également efficace comme contraceptif d'urgence sans effet sur le cycle hormonal féminin. Des essais sur des primates sont en cours actuellement. Les chercheurs précisent qu'une telle substance sera parfaitement inefficace pour se protéger des maladies sexuellement transmissibles.